بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفغي سوات للمانج Reviens à Allah Azza wa Jal qui nous accepte ce soir pour nous réunir quelques instants pour essayer de comprendre et mieux entrer, incha'Allah, dans ce mois de Ramadan. Bien comprendre l'objectif, la'allakum tattaqoun, c'est ce que nous essayons de travailler depuis quelques séances. Le but, c'est de comprendre l'objectif principal du jeûne, le maqsad, l'objectif que nous devons atteindre. On parle bien d'objectif à atteindre à travers les a'mal, les actions du mois de Ramadan. Ikhwan et khawati fillah, le croyant doit comprendre que lorsqu'Allah Azza wa Jal décide d'accorder à cette umma le jeûne du mois béni, c'est hidayah min Allah. C'est une faveur de la part d'Allah, fadru min Allah, une faveur de la part d'Allah. Et c'est également une guidée pour les cœurs. Il se passe quelque chose d'extraordinaire durant ce mois béni, au-delà de tous les bienfaits qu'Allah nous accorde. Et si on devait énumérer quelques bienfaits qu'on avait eu l'occasion de citer la dernière fois, la clémence d'Allah, la bénédiction, l'acceptation des douas, le pardon des péchés, et les portes du paradis ouvertes, les portes de l'enfer fermées, il arrête les dalik, la même du destin. Il y a des choses extraordinaires qu'Allah fait descendre des cieux pour nous. Il y a ça. Il y a cet aspect-là, les bienfaits qu'Allah nous accorde. Mais au-delà de ces choses dont nous bénéficions de ces bienfaits, Allah Rabbul Izzah guide le cœur de chaque croyant. Et nous nous rendons compte à chaque Ramadan, à chaque année de ce mois béni, que nous nous surprenons parfois à accomplir une quantité de bonnes actions qui nous est normalement inaccessible ou même impensable, inimaginable durant les 11 autres mois de l'année. C'est-à-dire que le croyant durant ce mois béni atteint le summum de son potentiel, on va dire, spirituel en termes de crainte d'Allah, mais également qui se manifeste en termes de bonnes actions qu'il accomplit, tout comme on trouve une grande aisance à dire non au péché et donc à rester éloigné du haram. Qu'est-ce qui fait que, durant ce mois béni, je me retrouve dans un tel état? Ce n'est pas simplement parce que ce mois s'appelle Ramadan, non. C'est pas parce que c'est Ramadan qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon préconscient qui fait que je passe en mode spirituel. Aucunement. C'est Hidayah min Allah, la guidée d'Allah Azza wa Jal. Et cette guidée, subhanallah, elle touche toutes les catégories de croyants. Ceux qui sont, mashallah, à fond dans la pratique, ils trouvent encore plus de ferveur et ils ont encore plus envie de se rapprocher d'Allah. Et même ceux qui, wallah musta'an, restent très éloignés de la religion, c'est cette personne qui ne prie presque jamais, bah, durant ce mois béni, Allah guide son cœur et cette personne trouvera une motivation pour accomplir ses prières et ne pas rater ses salats. Et pareil pour toute bonne action. C'est-à-dire que les savants disent que durant ce mois, pour résumer ce premier point, au-delà des bienfaits, il y en a au moins 9, 10 ou 11 bienfaits, il y a cette guidée de cœur. Et mes chers frères et sœurs, la guidée du cœur, ça n'a pas de prix. Et c'est exactement ce que nous demandons régulièrement dans nos prières lorsque nous lisons Ihdinas Sirat al-Mustaqim. Les savants disent, là on va rentrer dans le tafsir d'Al-Fatiha, les savants disent ce n'est pas pour rien si la première demande qui émane du cœur de l'être humain envers Allah Azza wa Jal, c'est la demande de guider. Parce que nous avons besoin à chaque moment, à chaque instant de notre vie, c'est même pas chaque jour, c'est plusieurs fois par jour et plusieurs fois dans une même bonne action, dans une prière, on a grandement besoin de l'accompagnement de notre Seigneur. C'est un terme que j'utilise. On a grandement besoin qu'Allah guide mon cœur. Parce que je suis dans la prière, je suis déjà guidé dans cette bonne action, mais je veux qu'Allah guide mon cœur et me garde dans le droit chemin. Donc, quand Allah guide ton cœur, c'est un bienfait. Et durant ce mois, on trouve cette guidée, on trouve une facilité à accomplir les bonnes actions et une grande aisance à rester éloigné des péchés. Donc ça, c'est toutes les chances qui sont bidnillah de notre côté, on pourrait dire tous les bienfaits apparents et cachés qu'Allah Rabbul Izza nous accorde, les bienfaits révélés à travers les textes, mais les bienfaits qui sont également, on va dire, plus subtils, cachés, et c'est des choses qui vont se passer au niveau de notre cœur. Deuxième point à retenir, on va dire, ça c'est plus une leçon par rapport à notre performance spirituelle durant ce mois béni. Les savants disent que durant ce mois, vous verrez le meilleur de vous-même. C'est-à-dire, il n'y a pas un Ibrahim, un Faisal, un Ishaq plus performant durant les 12 mois de l'année que durant ce mois de Ramadan. Et si on prenait un miroir, voilà, ou alors si on se filmait, voilà, c'est beaucoup plus moderne de le faire, de le dire, si on se filmait et si ensuite on conserve ces images, d'accord, et on regarde, mashallah, 2-3 mois pour Ramadan, je revisionne mes heures de réveil, mon assiduité, le tahajjud, je ne le rate pas une seule fois durant le mois béni, les 10 minutes de doua. Allez, on passe le suhoor parce que ça c'est exceptionnel. Si je visionne ce que je fais avant la salat de Maghreb, déjà présent dans la mosquée, dans la masjid, ou alors même si c'est chez moi, sur mon tapis de prière en train de faire doua, je me rendrai compte que waouh, j'étais vraiment au top durant le mois de Ramadan, mais c'est vraiment le meilleur de nous-mêmes qui ressort durant ce mois béni. Et là, le son que nous devons retenir, c'est que nous pouvons le faire. Il suffit d'être sincère, de demander à Allah son aide pour qu'Allah te permette d'accomplir des choses merveilleuses et extraordinaires qui vont te permettre de construire ta relation avec lui et de construire ton akhira, de réussir ton passage sur terre. Maintenant, si je récapitule, j'ai la guidée d'Allah dans mon cœur. Il y a des bienfaits, je les prends ces bienfaits, j'accomplis les bonnes actions. Donc je bénéficie de plein de choses parce que j'ai un cœur sincère, je fais des sacrifices, j'obtiens des récompenses. Tout ça c'est magnifique. C'est-à-dire que je suis en train de devenir un musulman idéal, j'allais dire parfait, idéal durant ce mois béni. Il manque quoi? Ben il manque la fermeté. Qu'après ce mois béni, je reste dans ce droit chemin. Alors on va pas parler de l'après-Ramadan alors qu'on est avant le mois de Ramadan, mais je veux dire que le croyant intelligent doit se projeter, pas le mois béni, la dernière décade, l'année du destin. Non, c'est toute ma vie. Hatta yatiyaka al-yaqin, jusqu'à ce que la mort te vienne. Ainsi, qu'on avait dit la dernière fois que c'est au début même, hein, que avant que le mois commence, demande à Allah, Ya Rab, accorde-moi tawfiq wa hidayah pour accomplir telle chose, et que en faisant doua et en formulant l'intention, Allah nous accorde déjà la récompense, inshallah, on va rajouter quelque chose à chaque fois qu'on accomplit une bonne action, on demande à Allah la facilité, l'acceptation, la sincérité, et on demande, Ya Allah, accorde-moi la fermeté dans cette bonne action. Ya Rab, à chaque fois que vous vous réveillez pour le tahajjud, le premier Ramadan, mashallah, le premier qiyam ou l'ail, que ce soit mardi soir ou mercredi soir ou peu importe, vous faites ce doua parmi les doua du dernier tiers de la nuit. Remerciez Allah de nous avoir donné tawfiq, de nous réveiller, d'être présent dans le dernier tiers de la nuit. Et demandez, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, bien sûr, mais demandez, Ya Allah, accorde-moi istiqama. Ya Allah, fait que demain je puisse accomplir le tahajjud aussi, et durant tout le mois béni. Et Ya Allah, accorde-moi cette faveur, parce que c'est une faveur qui vient d'Allah, d'être parmi ces personnes qui vont accomplir la prière de la nuit durant toute leur vie jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va accomplir une bonne action durant ce mois béni, on garde à l'esprit, on va dire, une certaine vision à long terme. Demandez à Allah de nous permettre de continuer à accomplir cette bonne action durant toute notre vie. C'est là que nous serons les grands gagnants du mois béni, si en plus de la sincérité, de la dévotion, de la présence de cœur, de l'acceptation, on a al-istiqama, la fermeté. Alors là, franchement, c'est qu'on ressort grandi de chaque Ramadan durant notre vie. Ikhwan et khawat et fillah, on a besoin de bien comprendre cela, l'alakum tattaqoun, et de déconstruire un petit peu tout ce que nous avons emmagasiné un petit peu comme conception, comme approche du mois béni, et comprendre qu'il y a un objectif. Ce n'est pas un mois qui commence et un mois qui se termine où on a accompli plein de bonnes choses et que ces bonnes actions se terminent quand le mois s'arrête. Là, wallah, le Ramadan n'est pas comme le Hajj. Chaque pilier a ses spécificités, bien sûr. Le Hajj, tu fais le tawaf à Mecca. Tu vas à Mina, Arafat, Muzdalifa, pendant les ayyam ou le Hajj. Quand c'est terminé, ces actions s'arrêtent. Je veux dire que si vous allez à Makkah, mashallah, durant le mois de Sha'ban ou Ramadan, vous n'avez rien à faire à Mina. Vous n'avez rien à faire à Muzdalifa, à Arafat, ce ne sera pas un ibada. C'est-à-dire que ce sont des actions qui sont temporaires. Ça s'arrête quand Mudda, quand Zaman, la période fixée est terminée. Mais dans Ramadan, ce n'est pas la même chose. Chaque action qui va, on va dire, qui va meubler ce mois béni doit être accomplie avec l'intention, Inch'Allah, de pouvoir le faire tout le temps, c'est-à-dire je reconstruis ma relation avec Allah sur de bonnes bases, avec sincérité, dévotion et effort. Et le but, c'est que voilà, je me présente maintenant avec ce potentiel de foi. Et je vais continuer à avancer après le mois béni et garder ce potentiel jusqu'à arriver le prochain Ramadan où je vais augmenter un peu plus le level. Mon pourcentage de foi qui était à 15%, il va arriver à 20%. Et d'année en année, c'est de cette façon que le mu'min doit comprendre, de cette façon que le croyant doit comprendre le mois béni. Et non pas une période qui commence où on fait de bonnes choses et quand ça se termine, les bonnes actions tombent et disparaissent également. Là, wallah, c'est ça qu'on doit déconstruire. Je ne veux pas être cet adorateur qui est performant, lecteur de Coran assidu avec 3 khatm al-Coran par semaine et ainsi de suite. Mais ça se limite au mois de Ramadan. Et après, on a compris, ce sont des schémas malheureusement qu'on connaît, et on se reconnaît à travers ces schémas parfois, et qu'après le mois béni, je ne lis plus le Coran, je ne fais plus tahajjud du tout. Je ne veux pas être cette personne qui fait ses 30 qiyam al-layl, mashallah, mais le lendemain, Yom al-Eid, à la limite Yom al-Eid, certains vont se baser sur des textes qui ne sont pas souvent sahih, pour passer les nuits en adoration, mais le 2 Shawwal, le 3 Shawwal, khalas, il n'y a plus personne, on ne répond plus, il n'y a plus de triamoulé, il n'y a plus rien du tout. Non. Malheureusement, c'est notre vécu. Wallah, pour beaucoup, c'est notre façon de vivre. Cette année, ça doit être différent. On ne peut pas se laisser aller. On ne peut pas se laisser berner par Shaitan. On a la guidée d'Allah durant tout le mois béni. Les shayatines sont emprisonnés. Mais dès quand c'est terminé, c'est comme ça que Shaitan vient et te dit, allez, on va se calmer, d'accord? T'as bien donné, mashallah, tu as bien prié. Maintenant, on lève le pied, parce qu'on ne va pas se radicaliser quand même. Voilà le discours moralisateur de notre Shaitan, on va dire. Et on se dit que voilà, on peut poser un peu et puis on verra la suite. Mais quand il te dit pause et tu verras la suite, ben tu verras la suite l'année prochaine. Allah musta'an. On ne peut plus vivre un mois de Ramadan sans désir de istiqama. Nous devons être animés par ce désir de istiqama et c'est un droit que nous devons faire de façon permanente. Il y avait 5 points cités, mais on a tout résumé en un seul point. Un Ramadan différent, c'est un Ramadan où je projette et j'ai une vision beaucoup plus large et beaucoup plus loin. Comment est-ce que je vais développer cette vision si je travaille ma taqwa? Si mon but c'est juste travailler les actions, comme on avait dit une fois, il y a des gens qui sont assidus dans le salat al-tarawih, ils lisent, mashallah, ils maîtrisent le Coran sur le bout des doigts, ils lisent avec un tajwid magnifique, exceptionnel, ils sont performants, ils ne font pas de faute et ainsi de suite. Mais si notre concentration c'est uniquement sur les actions et on n'a pas développé l'état d'esprit, la'allakum tattaqoun, il est normal que quand le mois est terminé et que certaines actions sont terminées, il n'y a plus rien. Non, moi je dois travailler quelque chose qui est dans mon cœur, qui doit trouver sa place dans mon cœur, c'est la taqwa. Et voilà par quoi on va conclure l'intervention d'aujourd'hui, mais c'est quand même un truc énorme. Hein. Je vais essayer de le résumer en quelques minutes, mais c'est vraiment ce que nous devons essayer de faire naître de notre cœur durant ce mois béni. Qu'est-ce que la taqwa? La taqwa, on sait c'est quoi. Il y a eu plusieurs définitions de grands savants. Une des définitions les plus correctes et les plus proches, c'est « an taj'ala baynaka wa bayna Allahi hijab ». C'est de mettre entre toi et Allah une séparation. Alors ça c'est la traduction littérale, il ne faut jamais traduire mot à mot. C'est de mettre une séparation entre toi et la colère de ton Seigneur. C'est-à-dire ne jamais te mettre dans une situation dans ta vie où Allah serait mécontent et déçu de toi. Où Allah serait mécontent et déçu de tes choix, de tes actions et de ton comportement. C'est-à-dire c'est une remise en question permanente et une pensée omniprésente, une pensée permanente d'Allah Azza wa Jal qui envahit, et c'est péjoratif, qui baigne notre cœur, qui fait que le croyant pense à son Seigneur sans arrêt. Ce qui fait qu'il va essayer, autant que possible, à chaque fois que l'occasion se présente, d'accomplir quelque chose par lequel Allah sera fier et satisfait de lui. Et que jamais, de jamais, de jamais, il ne ferait un pas vers une action ou une situation où Allah serait déçu et mécontent de lui. Waouh ! Tout un programme, on va dire. C'est le programme spirituel du croyant, c'est la'allakum tattaqun, c'est la piété. Et justement, analyser notre journée de Ramadan, on arrête les péchés, ça c'est une évidence. On fait plein de bonnes actions, c'est une évidence. Et quand on a accompli plein de bonnes actions, on cherche toujours à s'améliorer, à trouver d'autres bonnes actions. C'est-à-dire que je suis, durant le mois béni, je vis de façon la plus authentique les conditions du taqwa, les conditions de la piété. Alors les savants disent que ce croyant qui va garder cet état d'éveil spirituel permanente qui lui permettra de penser à Allah Azza wa Jal tout le temps, il gravit les échelons dans cet objectif à atteindre qui est la taqwa. Alors qu'est-ce qui se passe quand la taqwa s'installe dans mon cœur? Quand, je répète, ça veut dire quoi? Quand la taqwa s'installe dans mon cœur, c'est quand j'ai cette pensée permanente d'Allah. J'ai ce souci permanent. Quel est le regard d'Allah sur moi maintenant? Ce qui fait que jamais je ne vais m'aventurer, je ne vais ouvrir volontairement une porte de haram. Et jamais je ne vais refermer une porte de bonne action qui est entrouverte ou qui m'est accessible, qui s'est ouverte à moi. Ça, c'est la taqwa. Quand cette qualité, elle est ancrée, elle a pénétré mon cœur durant un mois, et que après ce mois de Ramadan, je continue à garder cet état d'esprit, qu'est-ce qui va s'installer d'autre dans mon cœur comme qualité de foi, amalul quloub? Ces qualités que les sahaba avaient développées à la perfection, ces qualités qu'ils avaient appris avec le prophète alayhi salat wa salam durant les 13 premières années à Makkatul Mukarrama, à Mecca. Période de difficulté, période d'épreuve, période de patience, période de sacrifice, période où on doit survivre pour sa foi, pour Allah. Et dans ces périodes, c'était la sincérité qui a animé le cœur des sahaba, qui leur a permis de rester ferme. Quand ils voyaient certains de leurs compagnons, de leurs amis ou membres de leur famille être persécutés, certains même perdre la vie, on pense à Soumaya radiallahu anha, on pense à la persécution de Bilal ibn Rabah radiallahu anhu. On pense à l'assassinat de toute la famille de Ali Yasir radiallahu anhum ajma'in. Quand les sahaba voyaient leurs amis, les membres de leur famille dans de telles situations d'épreuves, qu'est-ce qui fait qu'ils tenaient ferme? C'était leur amour pour Allah et leur crainte d'Allah, la sincérité qui baignait leur cœur, la recherche de l'agrément divin. C'est-à-dire que durant ces 13 premières années à Mecca, là il faudrait ouvrir les commentaires de Sirat, et c'est tout simplement magnifique, il y a une construction spirituelle énorme où les bases de la foi, les a'mal ou le quloub, les actions intérieures, ont pris place. Ainsi, lorsque la prière a été révélée lors du voyage nocturne, c'est quelque chose, c'est un lien entre moi et mon Seigneur qui s'installe sur des bases qui sont déjà là. J'ai des bases de foi profondes et solides. Ce qui fait que le lien était, c'est-à-dire qu'il y avait les connexions, si je peux me permettre, les connexions, tout était déjà branché. Au niveau spirituel, il suffisait de mettre ce câble qui est la salah pour que le contact ait lieu directement et c'était, subhanallah, le paroxysme de la foi qu'ils pouvaient atteindre par as-salah. Et lorsque le jeûne est arrivé, ils ont atteint un cap supérieur avec la zakat, ensuite avec le hajj. Comprenez que nous, on a mis un peu, on va dire, la charrue avant les bœufs. On a nos actions, on est à fond, mashallah, c'est déjà bien fait. Mais il nous manque des qualités de cœur. Alors, qu'est-ce qui fait que, comment allons-nous vivre notre religion si la taqwa s'installait dans nos cœurs réellement comme elle l'était installée dans le cœur des sahaba? Je suis devenu un homme pieux, mashallah. Imaginez que la taqwa s'est installée dans mon cœur. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une qualité qui va se greffer à mon cœur, c'est muraqabatullah. Muraqabatullah, on a eu l'occasion d'en parler. Je vous invite à lire Riyad al-Salihin avec les commentaires d'Ibn Uthaymin. C'est les seuls commentaires en français qui existent sur le marché et c'est exceptionnel où Cheikh développe le muraqabatullah C'est magnifique. C'est dans les premiers chapitres, ça, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va, la première qualité quand je développe la taqwa, le muraqabatullah va s'installer directement dans mon cœur. C'est la pensée permanente d'Allah. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, donc en introduction. Chaque instant, je pense à mon Seigneur. Je me fais du souci. Quel est le regard d'Allah sur moi à cet instant? Et j'éprouve, alors on va aller étape par étape, ce qui va se passer dans mon cœur également, c'est Al-Haya min Allah, la pudeur, cette pudeur et cette gêne qu'Allah me voit dans une situation de péché ou qu'Allah me voit dans une situation où j'ai accès à une bonne action mais je décide de ne pas le faire. C'est cette personne qui, Imran, il n'y a pas d'Imran sur le groupe, c'est Imran qui, on va dire 15 jours après Eid al-Fitr, après le mois de Ramadan, il se réveille à 4h15 du matin. Il se réveille, il regarde l'heure, il se dit que ben ah voilà, il reste encore 1h30 avant la salat de Fajr à la masjid, alors qu'il sait qu'on est dans les derniers tiers de la nuit, il a la possibilité de prier comme il faisait durant le mois béni, mais il se dit que non, là c'est bon, là je vais me reposer. Ben cette réaction là, elle n'aurait pas eu lieu si la taqwa avait déjà pris sa place et le muraqabatullah était installé. Le muraqabatullah et le haya min Allah va faire que dans cette situation à 4h15 du matin, et quand je m'apprête à rabattre ma couette sur moi et à retrouver ce plaisir qui est de se rendormir quand on se rend compte qu'on a encore le temps, c'est un plaisir, je me dis que non, Allah m'observe. C'est une situation qui a été créée par mon Seigneur, que je me réveille et j'ai trop honte qu'Allah voit que son serviteur avait le choix entre se jeter en prosternation devant lui ou alors continuer à dormir. Et il a fait le mauvais choix. Le haya min Allah, le muraqabatullah me permettra de prendre cette bonne décision. Tout comme ces deux qualités me permettront également, ça tout le monde l'a compris, dans une situation d'exposition au péché, d'avoir la honte du regard d'Allah sur moi alors qu'il m'a accordé tel et tel bienfait, entre autres la hidayah. Naam. Qu'est-ce que nous allons automatiquement développer également quand la taqwa va s'installer dans notre cœur? As-sa'yu fil ihsan. Nous allons développer Al-Ihsan. Et tout le monde sait que Al-Ihsan, c'est le plus haut degré de la foi, du iman. Le summum de la foi, c'est atteindre le Ihsan. C'est un tel degré de foi où le croyant adore son Seigneur et il a la conviction du regard d'Allah sur lui. Et donc, il va parfaire ses bonnes actions, chaque action qu'il accomplit, chaque bonne action. Il y a un terme, tahsinul a'mal. Tahsin, on reconnaît la racine hasan, quelque chose qui est bien. Tahsin, c'est l'amélioration de chaque bonne action. Quand la taqwa s'installe dans mon cœur, je vais souhaiter plaire à mon Seigneur dans toute bonne action que j'accomplis. Ce qui veut dire que mes bonnes actions ne se limiteront plus à un rituel. Imagine la salat al-Isha de ce soir, la salat maghrib, ou les prières qu'on accomplit rapidement en lisant des petites sourates pour en finir et pour passer à autre chose. Allah musta'an, qu'Allah nous pardonne nos manquements. Parce que notre foi n'est pas suffisamment formée pour rechercher tahsinul a'mal. Je recherche tahsinul a'mal, l'amélioration. J'allais utiliser la perfection, mais c'est un peu prétentieux. Je recherche la perfection des bonnes actions à partir du moment où je suis en train d'atteindre le ihsan, les plus hauts degrés de foi. Mais si la taqwa s'installe dans mon cœur, je vais atteindre ces hauts degrés de foi et automatiquement mon iman me demandera d'améliorer la qualité de mes bonnes actions. Ce qui veut dire que quand tu vas prier, automatiquement, tu vas rechercher la concentration. Et lorsqu'il y aura une idée, hein, une pensée extérieure qui traverse ton esprit, tu vas la chasser immédiatement et ne pas l'approfondir, ne pas creuser, parce que tu es à la recherche de l'amélioration de tes bonnes actions pour te rapprocher encore plus d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est une autre qualité de foi, une autre qualité tahsinul a'mal qui me permettra d'atteindre l'ihsan, les plus hauts degrés de foi. Quand la taqwa s'installe dans mon cœur et que j'accomplis ces bonnes actions à la recherche de l'agrément divin, automatiquement, je deviens mukhlis, je deviens sincère. C'est-à-dire que la sincérité, elle va trouver sa place dans mon cœur.
Lorsque la taqwa s'installe, la sincérité vient immédiatement. Ça vient avec tout ça. C'est un package magnifique. C'est le plus beau package qui puisse exister dans ce monde. C'est le package dans les deux mondes. C'est le package spirituel. Quand tu as la taqwa, quand tu as le muraqabatullah, quand tu as hubbullah, qu'on n'a pas encore développé, quand tu as le haya minallah, quand tu gravis les échelons du ihsan, et quand tu atteins le ikhlas, la sincérité, tout ce que tu le fais pour Allah. Des bonnes actions, mais également l'abandon des péchés. Et ça, c'est puissance. Hein. Quand tu accomplis une bonne action, tu le fais pour Allah, je l'intègre, ça. Ça, j'ai bien compris. Mais là où je dis que c'est puissant, c'est quand tu abandonnes un péché, et de ton cœur, tu sais que tu es en train de l'abandonner pour Allah, c'est quelque chose de magnifique. C'est une réaction de foi qui crée de la lumière. Ça veut dire quoi, qui crée de la lumière? Ça te permet de trouver encore plus de nour, de houda et de guider. Dans un hadith, le prophète alayhi salat wa salam nous rappelle « Man taraka shay'an lillahi, a'awwadahu Allahu khayran minhu » Celui qui abandonne quelque chose pour Allah. Allah remplace cette chose que tu as perdue, que tu n'as pas voulu prendre. C'est-à-dire, comprenez, c'est quelque chose qui comptait pour toi ou qui t'aurait apporté un bonheur, d'accord, même si c'est irréel. Celui qui abandonne quelque chose pour Allah, Allah lui accordera quelque chose de mieux. Qu'est-ce qu'on peut abandonner pour Allah? On donne l'explication des savants. Ils disent que c'est cette personne qui a la possibilité, je vais dire des phrases un peu crues, hein, vous m'excuserez, d'admirer. Je parle d'un homme, hein, d'admirer une belle femme qui est en train de traverser la rue ou qui est, bref. Il a la possibilité de faire parce que cette personne est devant lui. Et le premier regard, vous savez que le premier regard est pardonné. C'est-à-dire, c'est le regard furtif. Le regard, en guillemets, accidentel. On a tous compris, on ne va pas expliquer qu'est-ce que le regard accidentel. C'est ce qu'on voit immédiatement, d'accord? Et bien sûr, c'est une fraction de seconde. Ce premier regard crée un désir de son cœur. Bon, ça peut caricaturer ce que je dis, mais c'est un exemple parlant. Et lorsque, de son cœur, il a ce talab, ce tamanna, il a envie de regarder pour, voilà, parce que c'est peut-être dans sa nature et sa faiblesse humaine, sa faiblesse de foi. Et il se dit que non, je ne peux pas le faire. Et j'abandonne ce péché pour Allah. Ça, c'est quelqu'un qui abandonne quelque chose pour Allah. C'est également une personne qui doit investir dans son commerce, ou alors qui doit faire des travaux pour sa maison, ou qui aimerait acheter une maison, et qui se voit proposer un très beau contrat avec sa banque, avec un taux d'intérêt de, je veux dire n'importe quoi, de 2%, 3%, en imaginant que c'est un bon taux, Wallahu a'lam. Il sait qu'en 20 ans, il peut avoir sa maison, la maison de ses rêves, et être propriétaire, bref. Mais il se dit que non, ça c'est une transaction qui est haram, je ne vais pas le faire. Je préfère payer un loyer et ne jamais être propriétaire, payer un loyer à vie, mais je ne vais pas faire quelque chose qui va à l'encontre des hududullah, qui dépasse les limites d'Allah. Et ainsi de suite, hadith wala haraj. Celui qui abandonne un péché pour Allah. On peut se dire que il n'a rien accompli comme bonne action. C'est juste qu'il n'a pas mis le pied dans le haram. C'est-à-dire qu'il est en train de remplir son contrat. Hein. Il n'a rien fait d'exceptionnel. Mais vous savez, parmi les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, yawm la dhilla illa dhillu, le jour où il n'y aura d'ombre si ce n'est l'ombre du trône d'Allah, parmi les 7, il y en a qui ont fait des choses extraordinaires. L'homme qui prie la nuit et que les larmes coulent de ses yeux. Celui qui donne l'aumône avec sincérité, qui aide les gens. Il y a des gens. Et celui qui passe sa jeunesse dans l'obéissance d'Allah. Il y a des gens qui auront fait des actions énormes. Allahumma ja'alna minhum. Mais il y a une catégorie de personnes qui se distinguent. Et c'est vraiment singulier. Il n'a rien fait de spécial. Mais par contre, il a abandonné quelque chose de spécial. Rajulun da'athum ra'atun. Un homme qui reçoit des avances d'une femme d'une grande beauté et de haute lignée, et qui donc l'invite via le haram, faqala inni akhafu Allah. Il refuse, il dit que non, je crains Allah. C'est pas qu'il a peur du regard des gens ou autre chose, une maladie ou autre chose. Là, Wallah. Je prends acte que ce péché m'est accessible et que je peux le faire sans la moindre conséquence chez ma famille ou quiconque, d'accord? Mais je l'abandonne, pas pour eux, mais pour Allah. Cette personne-là accomplit une action, c'est une réaction de foi qui est tellement énorme que le jour de Qiyamah est invité pour être sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Et donc, ikhwan et khawati fillah, comprenez que délaisser un péché pour Allah, c'est une action énorme. Et qu'est-ce qu'Allah nous accorde? Allah t'accorde quelque chose de mieux. On va clôturer. Qu'est-ce qu'Allah nous accorde de mieux? Les savants disent en commentaire, pour faire vite. Allah t'accorde une lumière. Nourun. Une lumière qui te permet de trouver halawat al-iman. Qui te permet de trouver la douceur de la foi. D'apprécier tes prières. D'apprécier, de prendre plaisir à lire le Coran, de ressentir quand tu dis Allahu Akbar, de ressentir quand tu dis Astaghfirullah, de ressentir quand tu dis La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ça, c'est pas donné à tout le monde, ça. Ça, les Sahaba, eux, ils l'avaient. Ils le vivaient au quotidien. Ce qui leur permettait d'atteindre les plus hauts degrés de foi. Et nous, nous ne faisons qu'admirer ce niveau de foi de très loin. Et on n'a pas le niveau. Mais plus une personne va abandonner les péchés pour Allah, Allah Rabbul Izza lui donnera cette qualité qui lui permettra de trouver le plaisir spirituel dans les bonnes œuvres. Comprenez la concentration, la dévotion, la présence de cœur, et cette personne trouvera un bonheur extraordinaire, exceptionnel dans les a'mal salihah, qui fait qu'il n'aura même plus besoin d'aller vers le haram. Il va complètement changé. Vous avez comprendre immédiatement et de façon définitive que As-Sa'ada, le bonheur, est dans l'obéissance d'Allah, ala bidhikrillah tatma'innul qulub. Donc, ikhwani et akhawati fillah, je reviens à ce que je disais, ce qui va se passer également dans mon cœur, c'est l'ikhlas qui va s'installer et la sincérité. Quand j'accomplis une bonne action, je le fais pour Allah, mais la sincérité également quand j'abandonne un péché, je l'abandonne pour Allah. Ça, c'est quand la taqwa s'installe dans mon cœur. Et là, c'est un cercle vertueux. À chaque fois que j'abandonne pour Allah, Allah me donne encore plus de guider, encore plus de lumière, ce qui fait que ça va aller, ça va progresser. Allahu Akbar, Allahumma ja'alna minhum, je vais atteindre de très hauts degrés de foi. Tout ça, ça nous fait rêver. C'est quand la taqwa s'est installée dans notre cœur. La taqwa est là, elle développe toutes les qualités de foi que les sahaba avaient et dont nous avons besoin. C'est quand la taqwa s'installe dans le cœur. Lorsque la taqwa s'installe dans le cœur, il y a une autre qualité qui va prendre place, qui va naître, qui va se développer, c'est ihtisabul ajri. C'est l'espoir de rétribution. C'est que tu accomplis la bonne action avec la conviction qu'Allah va m'accorder telle chose de l'au-delà. Je le fais pour Allah, pour trouver la récompense auprès de lui. Et les savants disent que plus tu développes cette qualité, c'est ta vision du monde qui change. C'est-à-dire que tu arrives à faire le lien. Quand tu arrives à faire le lien entre ta salah et la récompense de l'au-delà, chose que peu de gens arrivent à faire, Allah Musta'an, faiblesse de foi. Quand tu arrives, je recommande, je répète, quand tu arrives à faire le lien entre ta salah et sa rétribution de l'au-delà, à un moment donné, tu arriveras à faire le lien entre chaque minute, chaque seconde de ta vie et ce que cela peut t'apporter dans l'au-delà. Et c'est là que tu vas atteindre la perfection de la foi, où tu n'accepteras pas que la moindre seconde, le moindre instant de ta vie t'éloigne d'Allah. Et où tu vas faire le maximum d'efforts pour que chaque instant de ta vie te permette de trouver les récompenses auprès d'Allah, de voir leur équivalent de hasana dans ma balance jour de Qiyamah. Ça, c'était le point un petit peu plus complexe, un peu plus difficile peut-être à expliquer. Je ne l'ai pas bien expliqué à cause du temps. Je pense que plus ou moins c'est... Inch'Allah, c'est compris. J'arrive à ce degré de foi où j'ai ihtisab al-ajr. À chaque fois que j'accomplis une bonne action, j'ai cette yakin, cette conviction qu'Allah me voit, m'entend, me regarde, c'est ce qu'il y a de mon cœur, et il va m'accorder telle chose dans l'au-delà. Donc je le fais bien, tahsin al-a'mal pour Allah, pour obtenir ses récompenses. Et à chaque fois que j'accomplis une bonne action et que j'intègre que ça c'est pour Allah, j'attends les récompenses auprès de lui, je vais retrouver les récompenses auprès de lui. Donc je fais ma bonne action avec cœur, avec investissement, ainsi de suite, à un moment donné, c'est pas que les actions, c'est chaque instant de ta vie, tu vas le vivre pour Allah et tu vas attendre la récompense auprès d'Allah. Ainsi, tu arrives à une perfection de la foi où chaque instant est un moment de ibad et où tu recherches l'agrément divin. Et quand toutes ces qualités s'installent dans le cœur, il y aura l'istiqama. Parce que ça, ce sont des qualités qui sont durables. Et là, ce sera la fermeté, hatta ya'tiyakal yaqin, jusqu'à ce que l'ange de la mort revienne et reprend ton âme. Qu'Allah nous accorde ces hauts degrés de foi. Qu'Allah nous permet à travers les actions du mois de Ramadan, à travers le suhur, le qiyam al-layl, le du'a, le istighfar, la salat de fajr, le shuruq, tilawat al-Qur'an, dhikrullah, sadaqa, zakatul mal, i'tikaf, il y a réel et dhalik, que ces actions nous permettent d'atteindre la piété. Que cette piété soit avec nous durant tout le mois. Et que cette piété nous permet, tawfiq min Allah, d'avoir le istiqam, la fermeté sur ses bonnes actions. Et de, du coup, voir mon quota de taqwa s'installer de façon durable et augmenter. Et que mes, ces qualités de foi trouvent place dans mon cœur pour que je devienne ce croyant qui, chaque instant de sa vie, recherche l'agrément divin et attend le moment où il va rencontrer Allah. Ça fait rêver. C'est notre objectif, c'est le ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est l'objectif du jeûne, la'allakum tattaqun, qu'Allah ouvre nos cœurs et nous permet d'atteindre ces objectifs au matawfiq et illa billah. Il nous restera un dernier programme de préparation avant le mois béni du Ramadan, ce sera incha'Allah lundi soir. Lundi, pour la métropole, il me semble que c'est le 29 Sha'ban, pour la réunion c'est le 28, donc on fera. Le dernier point que nous allons aborder, ce seront justement ce qu'on vient de dire, les actions. Comment faire le suhur correctement, comment rompre le jeûne correctement, comment, si on a le temps, lire le Coran correctement, comment, en option, faire le salat al-tarawih correctement. C'est-à-dire les actions du mois de Ramadan, comment les faire de la meilleure des façons. Qu'Allah Rabbul Izza nous accepte. Jazakumullah khair. Merci pour votre écoute et votre présence. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.